Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demandes pourquoi on en a fait tout un foin de la mort d'Internet Explorer, surtout qu'objectivement, la volée d'insultes qualificatives qui allait avec son nom était parfaitement justifiée. Parce que les conséquences de ce décès logiciel ont montré qu'une fois de plus, Microsoft peut nous étonner positivement, à condition qu'il ne soit pas leader sur un marché. Et là, leur place de numéro 1, non seulement ils l'ont perdue sur les navigateurs web, mais ils risquaient à très court terme de la perdre sur les outils bureautiques, puis les systèmes d'exploitation grand public, puis les infrastructures d'entreprise, puis sur les... Et à Redmond, le spectre du déclin de l'empire IBM a dû secouer en haut lieu. Je vais te faire un résumé avec mon point de vue. En 1995, l'année où Microsoft va rebrander Spyglass pour en faire Internet Explorer 1, Bill Gates sort un livre, La route du futur, où il décrit ce qui, selon lui, sera l'informatique à l'avenir. Une vision risible pour les gens avertis à l'époque. Oui, je me suis fadé la lecture. Risible, car s'il parle d'Internet dans sa première liste de son ouvrage, c'est comme d'un système propriétaire aussi cadenassé que le Minitel, réduisant les occasionnels surfeurs comme simples consommateurs et pas comme créateurs de contenu. Si Microsoft utilise alors déjà depuis plus d'une décennie les emails, FTP et autres outils réseau, le web, il ne le voit que comme un portail fermé où le concept même de site personnel est inexistant et la possibilité de visiter les portails de concurrents quasiment impossible. Le réseau propriétaire MSN est à l'image des autres opérateurs de l'époque, AOL, CompuServe, Genie et j'en passe, où l'on facture un abonnement à la minute avec des contenus exclusifs et où, finalement, on a un réseau privatif totalement asymétrique. Une fois Internet Explorer fourni par défaut sur tous les Windows préinstallés dans les PC, ben Microsoft a quasi gagné définitivement la guerre du web, au point d'avoir totalement abandonné le développement de son navigateur. Il y aura une version 6, peu probablement une version 7, et de toute façon, les navigateurs concurrents représentent des nefles. Il faut dire que ces derniers sont à la rue sur les technologies propriétaires de Microsoft, comme ActiveX, VML et j'en passe, et tentent vainement de normaliser XHTML2, un successeur à HTML d'une complexité sans nom, et qui heureusement a tourné en eau de boudin suffisamment tôt. HTML5 avait des idées plus simples, plus pragmatiques. Et là, la nature ayant horreur du vide, IE6, dans son grand immobilisme, se fit dépasser par les petits poussés, Opera, Safari, Firefox, puis Chrome. Pas de suite, mais quand sa part de marché tomba de 95% à sous les 50%, là, les questions de sécurité, performance et avancées technologiques sont remontées. Et l'empereur Microsoft se sentit nu sous le web. Enfant du futur immédiat, comme tu l'as vu dans l'émission précédente, l'effondrement d'Internet Explorer est la démonstration qu'une position statique dans un monde ouvert ne tient pas. Et donc, il faut régulièrement publier des mises à jour, faire progresser les technologies et accepter de collaborer avec ses concurrents. Que les questions de fini concernent aussi bien le respect des standards que la sécurité informatique. Et qu'enfin, que se faire haïr des développeurs web amène un risque qu'ils deviennent prescripteurs d'abandonner vos logiciels et pas que le navigateur, jetant ASP, Office, Windows avec l'odieux. Enfant du futur immédiat, l'une des leçons les plus cuisantes pour Microsoft fut le ballot screen. En 2009, constatant sa position monopolistique et l'installation d'IE par défaut sur quasiment tous les PC du marché, excepté ceux d'Apple, la Commission européenne aligne une forte amende contre Microsoft et lui impose de mettre en place un dispositif simplifié pour tous les utilisateurs basés en Europe, leur permettant de choisir facilement leur navigateur web par défaut. Une fenêtre invitant l'utilisateur à choisir le navigateur web qui sera désormais lancé par son Windows en ayant Internet Explorer sur un pied d'égalité au milieu de leurs concurrents. À l'époque, des fenêtres plein écran avec des messages cryptiques menaçants étaient une plaie dans Windows car on avait déjà de nombreuses tentatives de phishing, de publicités souvent malveillantes qui squattaient l'entièreté de ton écran. Beaucoup craignaient que IE trébuche à peine et que ce ballot screen ne soit qu'un sondage de popularité par rapport à des noms inconnue du grand public. C'est l'inverse qui s'est passé. En soit, la mort d'Internet Explorer et l'arrivée de Edge va bien au-delà du simple changement de moteur dans un navigateur web. C'est aussi le changement dans la mentalité générale, des codeurs au patron de la plus puissante boîte d'informatique. Une situation inédite depuis qu'IBM a violemment raté la marche avec PS2 et a revendu ses activités PC. Il a fallu le départ de Bill Gates, de Steve Ballmer et de Steven Sinofsky pour que la boîte pivote. Qu'elle ne soit plus dans la vente de licences logicielles préinstallées, mais dans les produits serveurs, passer des licences Microsoft Office vendues en magasin à des versions cloud en SaaS, aussi bien pour les entreprises que pour le particulier. Même sous Linux. T'imagines, 10 ans après que Steve Ballmer a déclaré que Linux est un cancer avec des postillons partout, Microsoft commençait à préparer sa suite bureautique pour tous les navigateurs web, à sortir Visual Studio Code sous Linux, et même est un important contributeur code au kernel Linux. Et gratuitement en plus. Et sur l'exploitation d'Azure, son offre Cloud IaaS, Microsoft a noté que plus de la moitié des VM sont sous Linux. Donc finalement, cette remise en cause avec la chute d'Internet Explorer, cela aboutit à la mue la plus importante de Microsoft. Alors oui, la claque fut forte. Voir ses utilisateurs apprendre qu'il existe d'autres navigateurs bien plus performants et que leur entourage leur conseille Chrome ou Firefox et donc faire passer Microsoft comme aussi ringard que Clippy. Il y a un point qui est important d'ailleurs. Ce n'est pas que ce ballot screen qui était exclusif à l'Europe qui a fait tomber le géant, car le mouvement était général, mais il l'a réellement précipité. Pourtant, on avait parmi le second choix de navigateur de simples reskins d'Internet Explorer comme Maxton et Avant Browser. Mais justement, eux non plus n'avaient pas convaincu. Quant à Safari sous Windows, Apple partira sur ses entrefaits. D'ailleurs, c'est amusant, car Google a eu à faire le même dispositif sur Android en 2019 pour exactement les mêmes raisons. Avoir tenté de trop lier ses logiciels au système d'exploitation Android. Un jour peut-être, Apple s'en prendra une, et alors peut-être qu'iOS deviendra plus intéressant, moins fermé, plus à l'écoute des utilisateurs. De nos jours, c'est Chrome et dans une moindre mesure Safari qui sont en position de quasi-monopole. Et Microsoft ? Ben, ils sont devenus d'excellents vendeurs de matériel et de solutions SaaS. Comme je te l'ai dit au début, il faut leur reconnaître qu'une fois de plus, ils sont très bons tant qu'ils ne sont pas premiers. Par contre, il reste encore parfois des mauvaises manies, comme celle de remplacer le navigateur par défaut de Windows 11 en Edge au gré des mises à jour. Comme quoi, ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour regagner la confiance des utilisateurs. Enfin, du futur immédiat, il ne faut pas désespérer des entreprises AI. Si elles ne sont pas pourries jusqu'à la moelle, elles peuvent décider de faire des choses bien.